Bonsoir à tous. J'avais à cœur de continuer. On a parlé du Seigneur la semaine dernière, celui qui est mort sur la croix. Et on a vu la semaine dernière que ce qu'il a subi, c'est pas rien. Et toutes les souffrances qu'il a subies, c'est parce qu'il nous aime d'un grand amour. Et l'amour duquel il nous aime était à l'échelle des souffrances qu'il a subies pour nous. Et j'aimerais introduire cette prédication en faisant une première lecture dans le livre de l'Épître de Paul aux Colossiens, qui nous reparle un peu sous un angle différent ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire, au chapitre 2. Je vais vous le lire dans une autre version. La lecture se situe du verset 12 au verset 15. Colossiens 2, verset 12. « Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne se souciaient pas de Dieu, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » La victoire de Jésus sur la croix, c'est la grande victoire du Seigneur. Et là où l'ennemi pensait avoir le dessus, c'est là même qu'éclate la victoire suprême de Dieu. À la croix, en un seul sacrifice, l'amour de Dieu a été prouvé. C'est à la croix que le plus grand geste d'amour a eu lieu. Quand Jésus-Christ s'est offert, il l'a fait par amour, pour tous les hommes, pour toi, pour moi, parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Mais dans le même sacrifice, la justice de Dieu s'est manifestée. Il semblait peut-être inconciliable que l'amour de Dieu puisse être glorifié et que la justice de Dieu soit glorifiée. Eh bien, le Seigneur a fait d'une pierre deux coups, je dirais, parce que dans le même sacrifice, les deux ont été alors plus haut point. Je dirais que c'est à la croix, en une seule fois, que l'un et l'autre s'expriment dans la plus grande intensité. L'amour de Dieu, parce que Jésus nous aime, et il meurt pour des pécheurs. Et la justice de Dieu, parce que Jésus va porter notre condamnation. Il va porter ma condamnation, il va porter ta condamnation. C'est là qu'est la plus grande victoire de Dieu. Et ces deux attributs que sont la justice et l'amour de Dieu se retrouvent ensemble, mêlés dans la mort du Seigneur, ce qui n'a pas d'autre effet que de glorifier Dieu au plus haut point. C'est à la croix que le Dieu créateur, le Père, est glorifié dans l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Ce que nous voyons ici, c'est quelque chose d'incroyable. C'est le premier fondement de l'évangile que nous apportons. Le Seigneur Jésus est mort pour toi sur la croix, pour porter tes péchés, pour que tu puisses être pardonné, pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, pour que tu puisses avoir la paix de Dieu. Et je ne reviens pas sur les souffrances qu'il a subies, ça je l'ai expliqué la semaine dernière. Cette croix, c'est la mort victorieuse du Seigneur. Seulement, le Seigneur n'est pas resté sur la croix. Il a été mis dans un tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité. Et j'aimerais m'attarder ce soir sur cet aspect-là. Parce que, on va le voir, et l'apôtre Paul le dit, si Christ n'est pas ressuscité, ça ne nous sert à rien d'être là à prêcher. Cela ne nous sert à rien. Il fallait que Christ ressuscite. Il fallait que Christ soit vivant. Il faut que Christ soit vivant, et il est vivant. Il est vivant. Le premier texte qui parle de la résurrection de Christ en termes d'ancienneté, en termes archéologiques, je dirais, C'est le texte de Paul aux Corinthiens, parce que c'est le plus ancien écrit que nous ayons à disposition. C'est pas les évangiles. C'est pas les évangiles. Les évangiles sont moins vieux, je dirais. L'épître de Paul aux Corinthiens, la première, c'est l'écrit le plus vieux que nous avons, qui nous relate la résurrection. C'est au chapitre 15 de cette première épître. L'apôtre Paul, quand il écrit ces mots, ça fait entre 20 et 30 ans que Jésus est mort. Autrement dit, les témoins oculaires sont toujours vivants. Du moins en grande partie. Et d'un point de vue archéologique, il n'a pas été trouvé d'autres écrits qui contestent ce que Paul écrit. Autrement dit, tout le monde semblait d'accord. Personne n'était contre ce que Paul disait. Ce qui est une preuve, quelque part, de l'authenticité de ce que Paul écrit. Il n'y a rien qui contredit dans ce même temps ce que Paul écrit. On va lire les 19 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc il est en train de dire que les prophéties qui étaient annoncées de Jésus s'étaient réalisées. Et il a été vu par Céphas, Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et quand on lit ces mots, on ne peut pas imaginer à quel point l'apôtre Paul, quand il écrit ça, il doit peser ce qu'il dit. Quand il dit que c'est pas lui, que c'est la grâce de Dieu, il sait d'où il revient. On va en parler un peu tout à l'heure. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comme quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ. Bien sûr, vous comprenez que c'est ironique. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et ça, c'est évident. Dans un psaume, il est écrit que, justement, il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés, tous sont attirés par le mal, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, verset 3. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donc si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, on est encore sous le péché. Et il n'y a aucun espoir. Heureusement, ce n'est pas le cas. Jésus lui-même disait, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je ne sais pas si on imagine, si Jésus n'est pas ressuscité, cette parole-là même est un mensonge. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi serait vaine. C'est la base, c'est le pilier, c'est un fondement, la résurrection du Seigneur. Et on ne pourrait pas le prier non plus. Le Seigneur Jésus a dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est, je dirais, si je paraphrase, il est le véritable chemin qui mène à la vie. On ne peut accéder à Dieu que par Jésus-Christ, que par le fait qu'il soit mort pour nos péchés, mais aussi qu'il est vivant. Il est bel et bien vivant. Et si le Seigneur n'est pas ressuscité, imaginons la fin de sa vie. Ne trouvez-vous pas ça bizarre que quelqu'un puisse ainsi se laisser conduire à la torture, à la mort, pour rien? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Mais qu'il est fou. Il n'y a pas d'autre explication. Que quelqu'un se laisse ainsi conduire, torturé, fouetté, aller jusqu'à la croix, la mort la plus atroce, alors qu'il aurait pu se défendre et qu'il aurait gagné. Non, il s'est laissé conduire. Il s'est laissé conduire jusqu'à la croix, mais il suivait quelque chose. Il avait un but. Il voulait sauver l'humanité. Et il savait que la mort ne le retiendrait pas. Parce qu'il, ce qu'il disait, je suis la résurrection et la vie, il le savait aussi. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Il savait qu'il ressusciterait. Néanmoins, j'aimerais quand même qu'on réfléchisse. J'ai quelques questions quand même qui nous parlent de la résurrection. On l'aborde pas souvent. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse vérifier justement la résurrection en elle-même. Et après, on va essayer de trouver quelques cas pratiques pour nous. On prie le Seigneur parce qu'il est vivant, bien sûr. Mais quelques questions. On voit dans la parole de Dieu que suite à la mort de Jésus, les apôtres sont tous découragés. Ils étaient complètement découragés, au point que même certains, ils étaient repartis dans leur activité professionnelle d'avant. Certains étaient repartis pêcher, d'autres étaient repartis. Ils étaient découragés parce que celui qui avait été leur maître était mort sur la croix. Ils n'avaient jamais compris l'enseignement que Jésus leur donnait. Et pourtant, quand on regarde l'Écriture, on voit qu'à un moment donné, ces mêmes gens, ils se retrouvent à prêcher, sans avoir peur des pharisiens, alors qu'auparavant ils étaient terrorisés. Quand Jésus a été emprisonné, tous sont partis. Ils se retrouvent tous ensemble et ils prêchent que Jésus est vivant avec assurance. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut en arriver là? Comment on peut ainsi braver la peur, braver les Romains, braver les Juifs? Parce qu'ils savaient qu'en annonçant ces choses, ce qu'ils encouraient, et pourtant ils sont pleins d'assurance. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu le Seigneur. C'est obligé. Ils ont vu le Seigneur. Il n'y a que parce qu'ils l'ont vu qu'ils ont pu ainsi être remplis d'assurance, remplis de joie. Et il n'y a que le fait d'avoir vu le Seigneur de leurs propres yeux qu'ils pouvaient en être à ce point prêts à mourir. Est-ce que ils auraient pu mourir pour un mensonge? Les apôtres sont morts, beaucoup sont morts, martyrs, peut-être même tous. Ils avaient vu le Seigneur parce qu'il est vivant. Regardez Paul. L'apôtre Paul, je dirais, c'est un terroriste. Aujourd'hui, c'est le mot qu'on donnerait. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était juif de naissance. C'était quelqu'un qui ne faisait pas qu'ignorer l'Église, ne pas s'en occuper. Au contraire, il l'a terrorisée. Il l'a persécutée. Il faisait mourir hommes, femmes, enfants, et il leur faisait renier celui en qui ils croyaient, mais celui en qui qu'ils ne pouvaient pas renier parce qu'ils l'avaient vu. Ils avaient vu les miracles qu'il faisait parce qu'il est encore vivant. Et l'apôtre Paul a vu ces choses. Et l'apôtre Paul, il les faisait mourir. Lui qui était instruit par le plus grand maître juif de l'époque, lui qui était rempli de la tradition juive. Comment se fait-il que Paul puisse arriver à renier sa propre tradition, à s'humilier en se disant devant tout le monde qu'il s'est trompé, qu'il a persécuté pour rien? Comment non seulement en arrive-t-il pas à accepter juste l'Église, mais il va leur prêter main forte, et il va les aider, il va devenir, lui, l'apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul en arrive à accepter d'être lapidé, de subir des coups, d'aller en prison en se laissant conduire, lui qui persécutait, lui qui était le terroriste? Qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse ainsi basculer? Il n'y a pas d'autre solution. Il a vu le Seigneur. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas possible autrement. On ne peut pas ainsi changer un homme comme ça. L'apôtre Paul était tellement imbu de sa religion. Il était intégriste, si je puis dire. On ne devient pas intégriste à autre chose sans rien de marquant. Et c'est ce que Paul a vécu. L'apôtre Paul a vu Jésus de ses propres yeux et il l'a vu bel et bien vivant. Comment des juifs, parce que Paul était juif, des juifs sceptiques, avant Jésus, ce sont ceux-là même qui ont crié « crucifie-le ». Les juifs, ils avaient une peur incroyable des pharisiens, parce qu'ils avaient une peur incroyable d'être même exclus de la synagogue, parce que s'ils étaient exclus, ça veut dire qu'ils étaient complètement exclus du système, ils étaient exclus de tout. De la famille, du système économique, etc. Être exclu de la synagogue, ça signifiait être sans rien. Or, les juifs, il fallait qu'ils fassent attention, et ils en avaient tous peur d'être exclus de la synagogue. Comment ça se fait que des juifs, des milliers de juifs, ont ainsi accepté de prêcher l'évangile? Ils étaient prêts à renier leur tradition. Les juifs, C'est une nation qui veille avec un soin tout particulier. On voit encore aujourd'hui qu'ils ne se mélangent pas. C'est une nation à part. Et depuis des générations, c'est une question de salut que de respecter les traditions juives. Comment ces juifs, à un moment donné, en sont arrivés à tout plaquer? C'est pas possible sans que le Seigneur ne leur apparaisse. Ceux-là même qu'ils ont crucifiés, ils l'ont aussi vu bel et bien vivant. Parce que Jésus est ressuscité. Ils ont pu comprendre, vérifier que Jésus disait la vérité. Ils ont pu comprendre que Jésus était le Messie qui était venu. Un petit détail aussi intéressant. Nous avons l'habitude le dimanche matin de prendre ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Je connais des histoires où des gens ont perdu soit un conjoint, soit des enfants à des dates particulières. Et dans ma famille, il y a des personnes, le 24 décembre, ils ne réveillonnent plus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la date qui rappelle le décès d'un proche. Et ils n'ont certainement pas le cœur à la fête. Ils n'ont pas envie de fêter ce jour-là. Parce que il y a un proche qui est mort. Et les chrétiens, ils fêteraient la mort de celui qui est ainsi mort en croix, avec joie. Les Corinthiens, ils étaient dans la joie au point que l'apôtre Paul leur disait de faire attention parce que leur joie devenait exacerbée. Tellement ils étaient dans la joie. L'apôtre Paul leur critique la manière avec laquelle ils prenaient le repas du Seigneur, dans une joie au point de trop boire. Tellement c'était festif. Mais quand on pense à la mort de quelqu'un, ça ne donne pas envie de rire en général. Ça ne donne pas envie de se réjouir. Lundi dernier, j'étais à un service d'inhumation. Le simple fait d'évoquer les souvenirs de la personne, même ceux qui n'étaient pas de la famille, les larmes coulent. On n'a pas envie de se réjouir. Et pourtant, les chrétiens, à chaque fois qu'ils se réunissent, ils se plaisent à commémorer la mort de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas sa fin. Parce que la mort de Jésus, c'est le moment où la victoire est obtenue sur le péché. C'est le moment où le pardon nous devient accessible. C'est le moment où on peut être en paix avec Dieu. Et ce n'est surtout pas la fin du Seigneur Jésus parce qu'il est ressuscité. C'est pour ça qu'on peut fêter ce repas. C'est pour ça que quand on prend le repas du Seigneur et qu'on se rappelle sa mort, on n'est pas triste parce qu'on sait qu'il est mort, certes, mais surtout qu'il est vivant. Il a triomphé sur la mort. Pourquoi on fête ainsi, dans la joie, la mort de Jésus? C'est parce qu'il est vivant. C'est parce qu'il a triomphé sur la mort. Et rien ne peut passer au-dessus du Seigneur parce que lui a le contrôle sur la mort. C'est parce qu'il est ressuscité qu'on peut ainsi se retrouver et fêter la mort du Seigneur parce qu'il est vivant. Comment des personnes peuvent réussir? Les tout premiers chrétiens ils étaient à un moment où finalement l'Église s'est retrouvée persécutée. On a des exemples dans le livre des Actes, on voit l'apôtre Paul enchaîné en prison, etc. Lapidé par les Juifs. L'Église était vraiment persécutée. Les Romains à l'époque, c'était une nation puissante. Ils étaient organisés. Et pourtant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que si nous sommes là ce soir, c'est bien que l'Église persécutée, elle a vaincu. Et pourtant, les chrétiens ne faisaient pas la guerre. Quand on emmenait les chrétiens au centre des jeux du cirque, eh bien, ils se laissaient. Ils se laissaient mourir. Mais ils avaient un regard ailleurs que sur leur vie terrestre. Ils avaient une certitude qui était tout autre. Ils savaient que leur Rédempteur est vivant. Ils savaient que Jésus-Christ est vivant. Et ils savaient que en lui, ils avaient tout. Et que sur cette terre, ils n'avaient rien. Et la mort, comme l'écrit Paul, leur était un gain. Christ était leur vie. Si Jésus est ressuscité, il nous veut auprès de lui. Et il te veut auprès de lui. Il est bel et bien vivant. Sinon, comment expliquer même que nous sommes là ce soir, en train d'en parler? Depuis toutes ces années, on en parle encore aujourd'hui. Et pourtant, combien même les uns les autres ont essayé de détruire l'Église. Les uns et les autres ont essayé de détruire les chrétiens qui proclament la vie du Seigneur. Peut-être que dans ton cœur, tu n'as pas la vie du Seigneur qui coule dans tes veines. Eh bien, tu peux la recevoir, parce qu'il est vivant, il est ressuscité, et c'est le Dieu, le Père éternel, qui est en personne. Là où Jésus était limité quand il était sur la terre, parce qu'il s'était dépouillé de sa divinité, il n'était pas omniprésent à ce moment-là, certes. Aujourd'hui, il est ressuscité, il est omniprésent, et sa vie, par son esprit, elle peut être donnée. Et la vie qu'il a, lui, il peut te la transmettre, et de la même que ces chrétiens étaient prêts à mourir pour son nom, toi aussi, tu pourras affronter la mort sans la craindre. Parce que la vie de Dieu qui va couler en toi, eh bien, ça ne sera pas une simple croyance. Ça sera une expérience, ça sera une réalité. Ce sera quelque chose que tu ne pourras même pas expliquer. Parce que le jour où tu te seras tourné vers Dieu, tu auras fait une expérience merveilleuse. La paix de Dieu dans ton cœur. Parce que Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Et maintenant qu'il est vivant, il intercède pour ceux qui se repentent. Il intercède pour ceux qui viennent à lui et qui lui demandent pardon. Comment pourrait-il nous pardonner s'il était mort? C'est tout bête comme réflexion. Mais c'est lui qui pardonne les péchés. Personne d'autre. Il fallait qu'il soit vivant, ne serait-ce que pour nous pardonner. Quand il était sur la croix, il avait déjà pardonné. C'est ce qu'il dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » D'accord, ça c'est vrai. N'importe comment. Ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et Jésus-Christ aussi entend. » Et il le sauve de toute sa détresse. Simplement, encore nous faut-il venir à celui qui veut nous pardonner, à celui qui veut nous donner sa vie, cette vie-là même qui fait que nous n'avons plus peur du lendemain, cette vie-là même qui fait que la mort pourrait venir, on n'en a pas peur. Parce que la vie de Dieu est là, parce qu'on sait que si la mort devait venir, eh bien, elle nous est un gain parce que c'est auprès de Dieu que nous allons. La vie auprès de Dieu n'est-elle pas plus belle que celle d'ici-bas? Moi, je crois que si. Moi, j'en suis convaincu. Quand Jésus est apparu aux disciples, il a dit, alors qu'ils étaient dans l'incrédulité, il leur dit avec tendresse, que la paix soit avec vous. Et Dieu n'a pas d'autre désir que sa paix soit dans votre cœur. Si Jésus apparaissait au milieu de nous, là maintenant, il pourrait, il est vivant. S'il apparaissait, qu'est-ce qu'il nous dirait? Qu'est-ce qu'il nous dirait? Moi, je crois qu'il y aurait une parole pour que nous puissions être consolés. Moi, je crois qu'il y a une parole pour que celui qui ne croyait pas au même titre que les disciples puisse croire. Et je crois qu'on verrait que c'est bien celui-là qui est mort sur la croix. Il n'y aurait aucun doute. Pratiquement, qu'est-ce qu'on peut voir? Le Seigneur Jésus a dit plusieurs choses. Et Une chose que j'aimerais retenir, c'est cette parole qui nous dit, tout simplement, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est ce qui nous permet simplement, dans cette salle, s'il le faut, au plus profond de son cœur, de crier à Dieu. Et le Seigneur Jésus est prêt à nous faire ressentir dans notre cœur, à nous faire savoir que nos péchés sont pardonnés, parce qu'il est là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Le désir du Seigneur, c'est d'être au milieu de nous pour que nous soyons dans la paix, pour que nous soyons dans la confiance, pour que nous soyons dans la joie que lui seul peut donner. Dans Zacharie, au chapitre 2 et au verset 11, il y a ce verset que j'ai retrouvé. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Alors c'est Zacharie qui écrit ça. Mais croyez-vous pas que ça pourrait être le Seigneur qui le dit? Le Seigneur, il a pour désir d'être au milieu de nous. Pourquoi faire? Pour nous faire du bien. Pour dispenser toutes ses grâces. Quand il était au milieu avec ses disciples, eh bien, il faisait du bien à tous ceux qui étaient autour de lui. Il leur faisait du bien. Il y avait une guérison par-ci. Il y avait un miracle par-là. Une parole d'encouragement devant. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, son désir n'a pas changé. Il veut faire du bien à ceux qui sont avec lui. Encore faut-il être avec lui. Encore faut-il s'approcher de lui. Et il n'a pas d'autre désir que de faire du bien. Seulement, comme on l'a vu, Jésus est mort sur la croix. Et pour nous approcher de lui, il nous faut avoir cette conscience que nous sommes pécheurs devant Dieu. Et celui qui se repent de tout son cœur, celui qui regrette son péché, à l'instar de ce brigand qui était peut-être prisonnier avec Jésus, qui était derrière les barreaux, eh bien, il est auprès du Seigneur maintenant sur la croix et il lui dit, pardonne-moi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur de lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce qu'il avait fait de bien ce brigand? Il était sur la croix et lui-même il disait, mais c'est juste que j'y sois. Il disait ça à son comparse. C'était juste qu'il y soit, parce que ce qu'il avait fait sur la terre méritait la croix. Simplement, il a réalisé qu'à côté de lui, il y avait le Sauveur du monde qui était en train de donner sa vie. Et il commençait à comprendre que ce n'était pas par ses œuvres qu'il allait être sauvé. Et qu'il ait fait des bonnes œuvres ou pas, ce n'était pas le plus important. Ce qui pouvait le sauver, c'était la foi dans l'œuvre du Seigneur qui était en train de se faire sous ses yeux. Il voyait le Seigneur agoniser devant lui. Et pourtant, il n'y avait pas une mauvaise parole qui sortait de sa bouche. Pas une insulte, rien du tout. Que des paroles qui faisaient du bien alors même qu'il était en train de souffrir. Ça, il l'a vu. Il a été touché. Et il a demandé au Seigneur sa grâce. Il a demandé à Jésus, dans une simple prière, « Souviens-toi de moi. » C'est une demi-prière peut-être. Dans son cœur, la prière était sincère. Le Seigneur n'attache pas d'importance à la forme à partir du moment où dans notre cœur il y a quelque chose de sincère. Et ça, il l'a vu. Et dans le cœur de ce brigand, il l'a vu. Et c'est ainsi qu'il a pu être pardonné de ses péchés. Et ainsi que Paul l'écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant et il intercède auprès du Père. C'est pour ça qu'il est vivant. Il est mort parce qu'il nous aimait, mais maintenant il est vivant parce qu'il nous défend. Il nous défend face à l'accusateur qui cherche encore à nous faire tomber, à celui qui cherche à nous accuser. Il est là auprès du Père et il dit, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour lui. Je suis mort à la croix pour lui, je suis mort à la croix pour elle. J'aimerais qu'on lise ensemble justement une partie de ce que l'apôtre Paul écrit aux Romains au chapitre 8. On y voit justement l'assurance du chrétien. On y voit l'assurance du chrétien. Au verset 31, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? C'est par grâce que nous sommes sauvés, et il veut nous le donner. Il accusera, qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous, il nous défend. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou le dénouement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur, celui qui a fait la paix avec Dieu et qui, dans son cœur, désire marcher pour son Sauveur. Rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, il y a encore des chrétiens qui meurent pour le nom de Jésus. Il y en a encore. Il y en a encore. Et ces terroristes-là, ils ne séparent pas ces gens de l'amour de Dieu parce que peut-être ils meurent sur cette terre, mais ils sont auprès de Dieu. Ils sont vivants auprès de Dieu. Ils sont dans ce jardin qu'est le paradis terrestre, le paradis céleste, celui de Dieu. Ces chrétiens, ils n'ont pas peur de mourir devant leurs terroristes, devant ceux qui les menacent. Ils n'ont pas peur, parce qu'ils savent que c'est auprès de Dieu. La mort leur est un gain, ça c'est clair. Ils savent que Jésus lui-même les défend. Un autre texte nous dit que par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aussi protégés. Et parce qu'il intercède pour nous, Dieu est pour nous et il nous protège, il nous garde. Grâce à l'intercession de Jésus qui est vivant, nous sommes sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Ainsi qu'il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le chrétien, le disciple de Christ, il y a cette protection divine qui est là sur sa vie. Le chrétien n'a plus peur de la mort. Il n'a plus peur de faire face à cette séparation. Et le chrétien, il a aussi une assurance sans précédent par rapport aux bien-aimés qui les ont précédés. Et j'aimerais qu'on puisse faire deux lectures. La première, elle est dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est le chapitre qui parle de la résurrection. Et au verset 20, je lis, « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. » Une deuxième référence, 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, et le terme ici est choisi, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Il utilise plusieurs fois le verbe pour qu'on puisse bien comprendre. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble, avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ici, il y a une vraie assurance, quand on appartient à Dieu, de savoir qu'un jour nous retrouverons ceux qui sont morts en Christ, ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont près de lui. Nous savons que nous les reverrons. Quelle grâce nous pouvons avoir. Est-ce qu'il n'est pas bon de savoir que nous appartenons à Dieu ? Qui appartient à Dieu ? Qui ne lui appartient pas ? Si ce soir tu ne lui appartiens pas, tu peux, c'est possible. Il te suffit de t'approcher de lui. J'aimerais juste lire un dernier texte et je vais conclure. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Et on va lire les 5 premiers versets. Au moment où Jésus est ressuscité, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. » On a deux types de personnes. On a des gardes qui, suite à cette révélation, ils sont épouvantés. Épouvantés. Le texte dit qu'ils devinrent comme morts. Et l'ange ne s'occupe même pas d'eux. Pas une parole de consolation pour eux. À l'inverse, les femmes qui cherchaient Jésus, celles qui avaient une relation avec lui, celles qui le connaissaient, elles vont pouvoir bénéficier d'une parole de consolation des anges. Et elles vont avoir cette crainte qui va s'envoler. L'ange leur dit de ne pas avoir peur. Elles n'avaient pas de raison d'avoir peur parce qu'elles étaient déjà en paix avec Dieu. L'ange rassure les femmes, mais pas les gardes. J'aimerais te dire, te poser la question ce soir, si ta vie venait à être redemandée, si ce soir le Seigneur apparaissait, quelle serait ta réaction ? Est-ce que tu serais épouvanté comme les gardes ou est-ce que, à l'instar de ceux qui ont choisi de faire de Jésus-Christ leur Seigneur et Maître, il y aurait cette parole de consolation qui leur dirait « N'aie pas peur ». Tout le problème, il est dans le fait que nous ayons fait la paix avec Dieu. Le cœur qui est lavé dans le sang de l'agneau, celui qui a compris la croix, celui qui a compris la mort et la résurrection de Christ, et celui qui s'est approché de lui en lui demandant pardon pour ses péchés, et qu'il le croit, celui-là est pardonné de ses péchés. Mais celui qui n'a pas fait cette démarche, il verra le même sort que les gardes. Vous savez, là, quand je pense aux hommes et aux femmes qui se disent « Bon allez, je vais faire ça, 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 je vais planquer ça sous le tapis, c'est pas grave, et puis j'irai au ciel. » Mais les gardes, ils ont juste vu un ange leur apparaître et ils étaient épouvantés. Comment quelqu'un qui est dans le péché pourrait aller au ciel et en profiter ? C'est même pas possible. Ils seraient morts de peur à cause du péché qui est sur eux. Si devant des anges, ils étaient comme morts, qu'est-ce que ce sera devant Dieu qui en plus est en colère ? C'est écrit. Pour ceux qui n'auront pas pris la décision de suivre le Seigneur. Voilà ce que dit Dieu. Je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu veut que nous puissions être auprès de lui dans le repos. Mais celui qui méprise ce que le Seigneur a fait, et nous l'avons vu ce soir, il est vivant, il est mort, il est vivant. Mais celui qui foule aux pieds ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, la colère de Dieu est sur lui. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir vraiment à ces paroles. Comme on peut le lire ici, c'est écrit dans la parole. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse se recueillir quelques instants. Le Seigneur Jésus est mort par amour et il est vivant pour nous défendre. Aussi on peut s'approcher de lui avec assurance, avec ce cœur repentant.